J'aimerais aussi vous apporter les salutations de quelqu'un que vous connaissez, je pense, le pasteur Alain Garcia. Voilà, puisque donc nous servons sur l'église de Lunel. Lunel, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville qui se situe entre Nîmes et Montpellier. Voilà, et nous avons une sorte de collaboration entre les églises du 34, notamment du côté Montpellier, donc Lunel, Montpellier-la-Mosson, Montpellier-Richter et Ganges. Donc on travaille en équipe, voilà, on tourne sur les églises aussi. Et donc j'ai l'occasion de voir assez souvent Alain Garcia, qui a été pasteur pendant quelques temps ici. Hein. 11 ans, voilà, 11 ans. Il n'a pas changé. Voilà. Il n'a rien du tout. Il rajeunit comme l'aigle. Voilà, voilà, donc il m'a dit, tu les salueras bien. Alors c'est ce que je veux faire en priorité. Voilà. Et puis, bon, ben, je crois que votre pasteur a tout dit. Nous sommes donc, voilà, nous servons donc à Lunel. Nous sommes actuellement un peu bousculés dans le planning parce que nous sommes en plein travaux. Donc, priez aussi pour nous, pour que les travaux se passent bien, que Dieu conduise les choses. Voilà, on doit réhabiliter le lieu de culte parce qu'au niveau de la sécurité, ça n'y était plus. Donc, actuellement, on se réunit le samedi, voilà, dans un autre lieu, et les mardis. Donc, d'où. Eh bien, ma disponibilité les dimanches, voilà, mais je serais venu quand même, hein, voilà, si on m'avait invité. Alors voilà, juste pour quelques mots. On va prier et puis ensuite on ouvrira la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Et Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la lumière. Ta parole, Seigneur, c'est celle qui change les vies, qui bouleverse les cœurs. Seigneur, ta parole, c'est celle qui éclaire tous les hommes qui la reçoivent. C'est celle qui éclaire nos ténèbres et qui nous amène, eh bien, dans ta lumière. Alors, Seigneur, eh bien, te prions de nous parler encore ce matin. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, voilà, j'ai prévu de partager avec vous quelques pensées, ou du moins quelques principes, pour marcher en victoire, en victorieux, voilà, avoir la victoire. Alors, juste quelques versets d'introduction. Jean chapitre 16, verset 33, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Un autre passage, Jean chapitre 15, verset 18 à 20, Jésus nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et puis un dernier texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. » J'ai pris ces trois passages, j'aurais pu en prendre tellement d'autres, mais ceux-ci sont ceux qui sont venus dans mon cœur pour vous les partager. Le Seigneur nous avertit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie forcément facile. Mais la vie chrétienne, c'est une vie où il y aura des tribulations, il y aura des combats, il y aura des oppositions, il y aura des persécutions, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, il y aura des tentations, il y aura des épreuves auxquelles tout chrétien né de nouveau, engagé avec le Seigneur, fera inévitablement face. Alors, les futurs baptisés, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais je vous le dis parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et qu'on ne veut pas vendre, entre guillemets, un évangile à l'eau de rose, mais on veut prêcher la parole et enseigner ce que la parole nous donne. Mais nous savons aussi que malgré tous ces combats, Christ a déjà remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur le péché, il a remporté la victoire sur la mort, il l'a remporté à la croix. Christ a envoyé son esprit. Et donc, Christ nous donne maintenant toutes choses nécessaires pour pouvoir poursuivre la course jusqu'au bout. Parce qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Voilà. Et entre-temps, eh bien, il y a tous ces moments qui peuvent être parfois difficiles. Et c'est pour cela que Paul va nous dire, inspiré par le Saint-Esprit, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a la victoire dans le nom de Jésus. Et la victoire finale et la libération finale se fera lors de la résurrection. Mais entre-temps, eh bien, nous devons marcher et nous avons besoin des conseils de la parole de Dieu qui nous enseigne comment remporter des victoires dans cette bataille spirituelle. Alors, quelques principes avec vous ce matin. J'en ai relevé 7. Voilà. Et je pense, et je suis sûr, parce que votre pasteur l'a dit tout à l'heure, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le Seigneur ne parle pas à ceux qui sont absents, il parle à ceux qui sont présents. Donc il nous parle à nous tous. Et le premier auditeur des prédications, c'est moi. Voilà. Vous voyez ? Donc je me prends un point par point. Alors le premier point, le premier principe pour obtenir la victoire, eh bien c'est que déjà, il faut se préparer, là-dedans, à être prêt à combattre. Voilà. C'est pour cela que je vous disais ça, futurs baptisés, mais vous aussi, mes frères et sœurs. Il faut être prêt à combattre, il faut être prêt à rentrer dans cette vie, à persévérer dans cette vie. Parce que, eh bien, nous sommes en guerre, comme disait quelqu'un. Mais nous, on est en guerre pas contre un virus. On est en guerre contre notre chair, l'esprit de ce monde, l'ennemi de nos âmes. Hein ? Donc, il ne faut pas être étonné de ces choses. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13, nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ne soyez pas surpris. Des fois, il y a des chrétiens, ils sont surpris. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai des combats, pourquoi c'est difficile. Pourquoi... » Ne sois pas surpris, c'est normal. D'ailleurs, ça serait peut-être même anormal si tu n'avais pas de lutte et de combat. Hein ? On l'a lu ensemble. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde ne vous haïssait pas, qu'il vous aimait, ben c'est normal, c'est parce que vous feriez partie du monde. Mais comme vous sortez du monde, bien, ce n'est plus cela. Quand on dit du monde, on parle de l'esprit, de la mentalité, des philosophies, des normes de ce monde, hein, qui sont pour, contraires à celles de l'Évangile. Alors, eh bien, Pierre nous dit ici, eh bien, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà lu le livre Le Voyage du Pèlerin ? Oui, vous connaissez ? Voilà, ou vous avez peut-être vu le film ou le dessin animé pour les plus jeunes. Et c'est intéressant parce que c'est ce personnage chrétien, donc il s'en va de la cité de destruction pour aller donc vers le royaume, et puis c'est une parabole en fait, une image de la vie chrétienne, et il s'en va, et puis à un moment, eh bien, il y a deux personnes qui vont tenter de le rattraper, il y a Obstiné et Facile. Et puis Obstiné, il repart, et Facile, il veut aller avec le chrétien, il est émerveillé, il pose des questions sur le royaume des cieux, sur les gloires à venir, tout ça, et puis alors il est enthousiaste, Facile. Sauf qu'à un moment, ils arrivent dans un endroit où il y a le bourbier du découragement. Et là, Facile, il tombe là-dedans et il dit « C'est ça ce que tu m'as promis, chrétien, c'est ça ton paradis ?» Alors il refait machine arrière et il s'en va, il est dégoûté. Ne soyons pas des chrétiens faciles. Hein ? Soyons persévérants, sachant que nous allons faire face à des combats et ça, il faut s'armer de cette pensée-là. Pour cela que Jésus dira à ses disciples dans le jardin de Gethsémané, veillez et priez, hein, afin de ne pas tomber en tentation. Il dira, eh bien, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dira, lorsque, eh bien, il va faire référence à la fin des temps, il redira ces choses, veillez et priez. Veillez et priez, soyez vigilants, car les assauts peuvent venir de toutes parts, et donc il faut être prêt à affronter ces choses, comme un soldat qui monte la garde. Ça, c'est le premier des principes. C'est pour éviter d'être surpris, déjà. Le deuxième principe, il faut combattre selon les règles. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà. C'est simple, hein ? On le comprend bien, ça, dans le domaine sportif. Hein ? Si quelqu'un marque un but avec la main, il ne sera pas validé. Ce n'est pas dans la règle du foot. Voilà. Bon, ça, on le comprend bien. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Tu veux remporter des victoires ? Il faut combattre selon les règles de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas à coup de déclaration. Il y a une nouvelle mode maintenant où les gens, ils déclarent ceci, ils déclarent cela. Ils pensent qu'au nom de Jésus, c'est une formule magique. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est une formule magique. Il y a des hommes dans la Bible, pour ceux qui lisent, eh bien, c'était les fils de Séva. Un jour, ils ont voulu chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon, il a répondu, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Vous, je ne vous connais pas. Et il les a, comme on dit dans le sud, fracassés. Eh oui, combattre selon les règles. Vous savez, il y a cette fausse doctrine de la confession positive, là. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut s'armer des armes de Dieu. Les armes de Dieu, vous les connaissez. Elles sont par exemple dans Éphésiens chapitre 6, vous les connaissez. C'est la vérité, c'est la justice et toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est ça, combattre selon les règles. Un chrétien qui mène une vie dissolue, une vie en désordre, une vie eh bien, en opposition parfois avec les commandements de Dieu, qui persiste dans quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, un comportement ou autre chose, qu'il est convaincu de péché dans son cœur, mais il ne se met pas en règle, il continue dans ce désordre, eh bien, il ne va pas remporter de victoire. Et des fois, on peut se poser, mais je ne comprends pas, pourquoi ça avance pas la situation là ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Hein ? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est en désordre dans ta vie. Je ne comprends pas, j'ai des problèmes toujours dans mes finances. Je ne comprends pas, pourtant je travaille. Ouais, mais des fois, tu travailles au black. Déclare pas les impôts. Hein, il se dit chrétien et il vit en concubinage, il se déclare pas, il se marie pas, il se déclare pas à la mairie. Et il y aurait tellement d'exemples comme ça. Donc vous voyez, des fois, avant de déclarer le nom de Jésus, ben, il faut déclarer ses impôts parfois. Hein? Amen. Tout ça pour vous dire que avant eh bien, d'obtenir une victoire, il faut se mettre en règle. Parce que quand on marche pas selon les règles du jeu, entre guillemets, ça fonctionne pas. Vous voyez ? Des fois, c'est simple. Hein ? Le pasteur, dans la pensée, ce matin, qu'est-ce qu'il a dit ? Écouter, croire et agir. C'est ça. On écoute la parole. Amen, amen, elle est belle la parole. Des fois, on peut entendre la parole comme on entendrait un chanteur agréable. Hein, il est dit dans Ézéchiel. Hein. Oh, on croit dans la parole, mais quand il faut agir, eh oui, la foi, on est sauvé par la foi, c'est vrai. Mais la vraie foi, elle engendre des œuvres. Eh oui, important de combattre donc selon les règles. Troisième principe, remettre à l'Éternel ses projets. Proverbe chapitre 16, versets 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Et là encore aussi, mes frères et sœurs, hein, des fois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des projets. C'est bien d'avoir des projets. C'est pas mal, hein ? Il faut avoir des projets dans la vie. Hein ? Bon, seulement ces projets, il faut les remettre entre les mains de Dieu. Il faut prier le Seigneur. Il faut attendre une confirmation, une direction. Il faut aussi eh bien, les confronter à la parole de Dieu. Parce que des fois, on attend qu'un ange y descende du ciel pour nous parler ou je ne sais pas quoi. Ou la lumière, une grosse voix comme dans les films. Des fois, c'est surtout souvent, le Seigneur va te parler au travers de sa parole. Donc tu ouvres ta Bible, tu médites, tu pries et le Seigneur il va te donner du discernement, il va te donner la direction. Donc recommande à l'Éternel tes projets. Malheureusement, parfois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des projets sans consulter Dieu. On se lance là-dedans et après, viennent les problèmes. Et on se dit, pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur, je suis dans cette difficulté ? Mais tu ne m'as pas consulté. Mais tu ne m'as pas demandé. Tu as fait ton projet, tu es allé dedans et maintenant que tu es dedans, tu me demandes. C'était avant de partir qu'il fallait demander. Vous voyez ? Vous vous souvenez de David ? Le roi David, il a eu beaucoup de batailles, le roi David, hein, beaucoup de combats. Hein. Et quand il allait combattre les Philistins, David, il n'y allait jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il demandait à l'Éternel. Irai-je ? Monterai-je contre les Philistins ? Et Dieu lui répondait, non, tu n'iras pas. Oui, tu iras. Et pourquoi est-ce que David y remportait les victoires, y remportait les combats ? Parce qu'il faisait selon le plan de Dieu. C'est tout, hein ? T'y vas pas ? Ok, j'y vais pas. T'y vas ? Ok, j'y vais. Vous voyez ? C'est très simple. C'est très simple. Mais c'est un principe élémentaire. Remettre ses projets à Dieu, à l'Éternel. Et Dieu va nous donner la direction. Et quand Dieu il te donne la direction, et quand Dieu il te donne l'approbation, eh bien, tu sais quoi ? Il n'y a aucune porte qui ne peut se fermer. Il n'y a personne qui ne peut te vaincre, puisque c'est le projet de Dieu. En fait, il faut que ton projet il soit en adéquation avec le projet de Dieu. Voilà. Et ça marche. Ça marche, mais on arrive à un autre principe. Le quatrième. Envisager l'échec. Vous allez me dire, mais attends, tu viens de nous dire que si c'est dans les plans de Dieu, ça va fonctionner. Là, tu nous dis, il peut quand même y avoir des échecs. Oui, on va l'envisager, mais sous l'angle de la Bible. Vous vous souvenez des amis de Daniel ? Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Il y a le roi Nebuchadnezzar, hein, roi de Babylone. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait construire une statue, il veut qu'on l'adore, etc., etc. Et les amis de Daniel et Daniel, ce sont des hommes pieux, ce sont des hommes consacrés à Dieu, et ils ne veulent pas adorer des idoles. Alors, eh bien, ils se refusent de se soumettre, ils refusent de se prosterner. Donc le roi va les faire appeler, et puis ils vont leur dire ceci, « Maintenant, tenez-vous prêts !» Ils vont dire aux amis de Daniel. « Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ici, ils disent, on ne va pas se prosterner, on ne va pas se prosterner, on ne va pas servir d'autres dieux. Voilà. Et notre Dieu, il va nous délivrer de ta main. Mais s'il ne nous délivre pas, au cas où il ne nous délivre pas, ce n'est pas ça qui va nous faire perdre la foi en Dieu. Ce n'est pas ça qui va nous faire changer de Dieu. Mais au cas où il ne nous délivre pas, on restera fidèle à notre Dieu. Ils ont envisagé la possibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont manqué de foi. Non, parce qu'ils sont prêts à... ils ont demeuré dans la foi, que ce soit dans la victoire ou dans une apparente défaite. Eux, ils restent fidèles à Dieu. Ils restent dans la foi. Hein. Ils restent dans la foi. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont été libérés. Ah, c'est vrai, ils ont été libérés. Ils ont été délivrés de la fournaise. Ok. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont eu eh bien, la foi des amis de Daniel et qui n'ont pas été délivrés. Ça arrive. Hein. Est-ce que vous connaissez ce réformateur qui s'appelle John Huss ? C'était un réformateur tchèque. Et cet homme, eh bien, je vais vous le lire, hein, je vais vous le citer, il a été condamné au bûcher pour avoir prêché la vérité. Parce que quand on prêche la vérité, ça dérange. Quand tu prêches le compromis, tu prêches, ça va. Ça passe. Il est bien, lui. Quand tu prêches la vérité, ça dérange un peu plus. C'est bien. Et lui, il dérangeait. Eh bien, un peu le gouvernement religieux en place. Hein. Et alors, ils vont le condamner au bûcher. Et puis, il est dit, hein, texto... Mais lorsqu'on a mis une chaîne autour de son cou, il a dit en souriant, « J'accepte volontiers cette chaîne pour l'amour de Christ. » Lorsque le bois eut été élevé jusqu'à la hauteur de sa tête, le duc de Bavière lui cria d'une manière brutale d'abjurer de se soumettre. Il répondit, « Non, non, je prends Dieu à témoin que je n'ai rien prêché d'autre que sa pure doctrine et ce que j'ai enseigné, je suis prêt à le sceller de mon sang. » Le feu étant allumé, Jean Hus chanta un hymne que l'on entendait à travers le pétillement et le bruit des flammes. Il y a mieux comme accompagnement musical. Hein. Quand il eut fini de chanter, il cria à haute voix, « Jésus, fils de Dieu vivant, aie pitié de moi. » Et au même moment, il tomba dans les flammes et mourut. Il est dit qu'avant de mourir, il aurait prophétisé en ces termes la venue de Luther en disant, « Ils peuvent tuer loi, qui en tchèque se dit us, mais ils ne pourront pas, mais dans 100 ans apparaîtra un signe qu'ils ne pourront brûler. » Et une centaine d'années après est venu le réformateur Luther que vous connaissez, très certainement. Donc, vous voyez, cet homme-là avait foi en Dieu, il n'a pas été libéré de la fournaise, par exemple. Est-ce qu'il n'avait pas la foi ? Est-ce que c'était un échec ? Aux yeux du monde, c'est un échec. mais pas forcément aux yeux de Dieu. Et même des fois, si on peut essuyer des échecs, ce ne sera qu'une marche vers la victoire. Parce que Dieu peut nous faire passer aussi par des chemins où nous croyons eh bien, être dans la défaite, mais c'est pour nous former, c'est pour nous rendre plus forts. Vous savez que lorsque Dieu permet une épreuve, eh bien, c'est toujours pour nous rendre plus forts. Au moment de l'épreuve, il y a la tentation. La tentation, elle vient de l'ennemi. Là, c'est pour nous faire chuter. Mais l'épreuve, elle est permise par Dieu pour nous élever. Il faut demeurer dans la foi. Ce qui peut paraître un échec aux yeux du monde, ça peut être une victoire pour Dieu. Et la plus grande victoire que Dieu a remportée, eh bien, c'est la victoire de Christ à la croix. Aux yeux du monde, c'est un échec. Voyez leur Dieu, voyez leur prophète, voyez le Fils de Dieu, voyez ceci, voyez cela, il est mort. Il a été rejeté, il a été dédaigné, il a été méprisé, maltraité. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça votre roi des rois ? Eh oui, mais pourtant, dans le monde spirituel, Christ a vaincu, a remporté la plus grande des victoires. Nous savons, frères et sœurs, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Et la vie chrétienne, il y a un autre principe aussi pour remporter les victoires, c'est le cinquième. Il faut faire preuve de courage et de foi. Souvent, les gens qui ne sont pas convertis, qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas en une religion ou autre, vont dire des chrétiens, mais les chrétiens, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles parce que vous avez besoin d'une béquille hein, pour vous aider à avancer, parce que c'est trop difficile la vie pour eux. Nous, nous sommes forts, ceci, cela. Ils se trompent. Ils se trompent pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de la vie chrétienne. Au contraire, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de foi hein, pour marcher eh bien, avec le Seigneur et pour surmonter toute chose. Et vous voyez, il y avait un homme, il s'appelait Étienne. Étienne, il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Et cet homme, Étienne, eh bien, il a témoigné de Christ. Il a prêché la parole. Et pour ceux qui connaissent, il a été lapidé. Il a été lapidé. Il a été lapidé et il a fait preuve de courage et de foi jusqu'à la dernière pierre. Et il a pu dire dans les derniers moments de sa vie, levant les yeux au ciel, il dira « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu ». Il a gardé les yeux fixés sur Jésus. C'est le seul passage qui dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. Parce que même dans la difficulté, même dans le combat, aussi dur et intense soit-il, celui qui garde ses yeux sur Jésus, Jésus, il se lève pour défendre ta cause, pour te donner le courage. Parce que le courage et la foi, ça va de pair. Où c'est qu'on va puiser notre courage ? Dans la foi en Christ. Comment est motivé notre courage ? Notre courage est motivé par la foi et l'amour que nous avons pour le Messie. Pour Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu veux triompher ? Crois à Jésus. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Crois que Jésus, eh bien, t'a racheté. Crois que Jésus t'a sauvé. Crois que Jésus te donne toutes choses. Pour marcher et pour être vainqueur et même plus que vainqueur, nous dit la parole. Reste attaché à Christ. Attache-toi au Seigneur. Même quand ça bouge, attache-toi au Seigneur. Que ça soit la fournaise, que ça soit la tempête, que ça soit la personne. Attache-toi au Seigneur. Sixième principe. Il faut savoir renoncer et se consacrer. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Paul dira à Timothée, son enfant dans la foi, on pourrait dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La pensée qui ressort de ce verset, c'est une consécration totale à l'œuvre de Christ. Il faut être consacré. Il faut avoir cette vie. Qui se voue à la cause de Christ. Et on le fait par amour. Et Paul prend cet exemple du soldat, parce qu'un soldat, il en fait des sacrifices, hein, pour la patrie, lui. Il le fait pour son drapeau, pour la patrie, pour son peuple. Mais les sacrifices, eh bien, il abandonne un confort, il abandonne la famille, Il part des fois des milliers de kilomètres. Il est prêt même à donner jusqu'à sa vie, parce que quand le militaire, quand le soldat, il part, qu'il est engagé, il sait très bien, hein, il sait bien que là-bas, on ne va pas se battre avec des pistolets à eau. Et il sait très bien qu'il peut y jouer sa vie. Il sait très bien que le jour où il dit au revoir à sa femme et ses enfants, peut-être c'est la dernière fois. Vous voyez ? Le soldat est prêt à le faire pour un drapeau, pour une patrie. Et le soldat de Jésus, lui, est-ce qu'il est prêt à donner sa vie comme son sauveur, son Seigneur a donné la sienne, à se consacrer ? Eh bien, être prêt à renoncer à certaines choses. Être prêt, eh bien, à se consacrer et abandonner des choses qui peuvent prendre du temps, ou tellement d'exemples qu'il pourrait y avoir. Renoncer à ses intérêts pour les intérêts de Dieu. Renoncer à ses intérêts pour les intérêts du peuple de Dieu. Renoncer, eh bien, à un certain confort personnel, une habitude, parfois ça peut être même certaines amitiés, certaines fréquentations, certaines choses que nous aimons, des choses qui ne sont pas forcément illégitimes, mais qui vont nous empêcher, qui vont être un obstacle. Est-ce que je suis prêt ? Ça, c'est Dieu qui nous le montre chacun pour nous-mêmes, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes obstacles, les mêmes, on va dire, aspirations, etc. Oui, voilà. Donc, il faut être prêt à renoncer parfois. Pour aller plus loin. Il faut être prêt à se consacrer. Se consacrer, ça veut dire qu'il faut être prêt à émettre de l'énergie, à émettre de l'intensité, à agir, comme ça avait été dit ce matin. Paul dira, il faut que le laboureur, eh bien, il travaille avant de recueillir les fruits. Et tu veux obtenir des victoires dans ta vie spirituelle, va falloir que tu agisses. Va falloir que tu émettes du tien. Parce que la victoire, elle ne s'obtient pas à un coup de baguette magique. Encore une fois, le nom de Jésus, ce n'est pas abracadabra. Et non, il va falloir consacrer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Il va falloir consacrer du temps avec tes frères et sœurs. Il va falloir te placer devant Dieu. Il va falloir aussi se laisser façonner par Dieu. Parce que des fois, tu sais comment on prie des fois ? On dit « Seigneur, donne-moi de la patience. Seigneur, remplis-moi de ta patience, Seigneur. Seigneur, il va exaucer ta prière. Et il va t'envoyer un frère qui va te saouler. » Pour que tu deviennes patient. Et toi, tu fais, Seigneur, je t'ai demandé de la patience. C'est ça, c'est justement lui la formation pour la patience. Vous voyez ? Et il va falloir renoncer. Il va falloir renoncer parfois aussi à son ego. Renoncer parfois à sa conception des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut eh bien, y mettre du sien, de l'énergie. Et puis le septième principe, et j'ai terminé. C'est qu'il faut être résolu dans la vie chrétienne. Il faut être déterminé. Hein ? On est dans l'époque des bonnes résolutions encore, bon, qui sont déjà pour la plupart finies. Hein ? Hein ? C'était le premier, on est le combien aujourd'hui ? Je ne sais plus, le 26 ? 26, ouais, oula, les bonnes résolutions. C'était quand déjà ? Ouais, c'était il y a 15 jours, hein, c'est fini. Mais avec le Seigneur, il faut que nos résolutions soient fermes. Il faut être déterminé. Mes frères et sœurs qui se baptisaient aujourd'hui, soyez déterminés. Hein ? C'est une étape importante dans la vie chrétienne, mais c'est une étape. Il y a tout le chemin derrière, autant que Dieu vous prêtera vie. Voilà. Et pour tous mes frères et sœurs qui avaient peut-être 10 ans de conversion, 50, 40, j'en sais rien, c'est la même chose. Parce que c'est un combat de chaque jour. Chaque jour. Jusqu'au bout. Oh, va jusqu'au bout, comme dit ce chant-là. Être résolu et déterminé. Pourquoi ? Parce que l'exemple, c'est le Seigneur. Vous vous souvenez du Seigneur ? Lorsqu'il est dans le temple, à 12 ans, hein ? Que ses parents le cherchent de partout. Ils reviennent. Mais t'étais où ? On t'a cherché de partout. Là, c'est la version Rue Pires 2025. T'étais où ? On t'a cherché, c'est pas bien. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va répondre le Seigneur ? Ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père à 12 ans ? Le Seigneur, il sait très bien là ce qu'il a à faire. On retrouve plus loin le Seigneur. Il était résolu. Il a pris la résolution d'aller à Jérusalem, sachant que le temps où il devait être enlevé du monde approchait. Et puis le Seigneur, il a été sur la croix pour chacun de nous. Et sur la croix, il a pu dire, Père, tout est accompli. je rends, et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc on voit bien que notre Seigneur a été résolu, mais de tout temps, de toute éternité. Puisque sachez que, bien que l'homme ait chuté, bien que l'homme ait péché, Dieu savait par avance que l'homme allait chuter, allait pécher, puisque Dieu est omniscient. Mais il est dit que Dieu avait préparé un plan en lui-même, et que Jésus est l'anneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Donc le plan était prévu déjà. Avant sa venue, Jésus a dit à son Père, « Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le Fils de Dieu est venu dans un corps, eh bien, semblable au nôtre, pour offrir sa vie. Et il a tenu jusqu'au bout. Et il a vaincu aussi les combats. Le Seigneur, il a eu des combats, hein, dans le désert. Vous vous souvenez, après s'être baptisé, l'Esprit les a conduits dans le désert. Donc si vous êtes baptisé et qu'il y a une épreuve, je ne veux pas vous décourager, hein, on va prier pour vous. Mais vous dites, ah Seigneur, pareil que toi, tu as été conduit. Voilà. Mais avec le Seigneur, si tu t'appuies sur la parole, comme Jésus nous a montré l'exemple, tu sortiras vainqueur du désert et beaucoup plus fort. Et le Seigneur, eh bien, il a été prouvé. Et dans le jardin de Gethsémané, pressoir à l'huile, je veux dire, il a été prouvé à tel point que des grumeaux de sang ont coulé de son front. Mais il a dit, non pas ma volonté, ô Père, mais ta volonté. Et il a été jusqu'au bout. Vous savez, la vie chrétienne, et c'est pas comme un film. Nous, on regarde des films, des fois, ça dure 1h30. On dit, il était bien ce film, hein. Il était bien ce film. Ah ouais, ça nous encourage. Des fois, il y a des films. C'est fou ce que le cinéma peut nous faire, des fois. On peut pleurer devant un film, devant des acteurs qui n'ont pas de peine. Hein. On peut pleurer, on peut être encouragé. Je prenais un exemple la dernière fois. Je sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les Rocky Balboa. Hein. Quand on regardait les Rocky Balboa, on était là avec les cousins et les autres. On était chaud, on voulait aller à la boxe, on voulait s'entraîner. Bon, dans le film, il s'entraîne et tout ça, et puis il devient un champion. Bon, ça dure 10 minutes et on est enthousiaste. Hein. Bon, dans la vraie vie, pour remporter un combat de boxe, c'est des heures d'entraînement, il faut aller à la salle, corde à sauter, footing. C'est dur. Donc, je vous dis que, vite fait, on n'était pas trop sportif. Voilà, vous voyez, la vie, ce n'est pas comme un film. Et c'est vrai que quand on lit les Écritures, des fois, on voit des passages, ça va d'un verset à l'autre, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des années qui se passent. Donc, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il faut être résolu. Il faut être déterminé dans la vie chrétienne. Il faut aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça, ce verset. C'est le Seigneur qui le dit. Joseph, vous rappelez de Joseph ? Joseph, le fils de Jacob. Hein, il a reçu des rêves, et entre son rêve qu'il a reçu adolescent et l'accomplissement de son rêve, bah, il est dit qu'il est devenu premier ministre d'Égypte à 30 ans. Donc il s'est passé du temps. David, il a été oint par Samuel, adolescent, eh bien, il a été intronisé roi officiellement à 30 ans. Donc c'est long. C'est long. Et il faut persévérer, parce que parfois le combat, il va durer pas un jour, pas deux jours, pas une semaine, pas un mois, pas un an, pas 5 ans, pas 10, des fois 20, 30. Hein ? Persévère. Amen. Il n'y a plus personne qui dit amen là. Hein ? Non, Seigneur, je voulais la victoire, mais victoire fast-food, Seigneur. Quand j'ai fini la prière, tu me la donnes. Non. Seigneur, donne-nous de la persévérance. Mais je vais te permettre de traverser un combat pendant 10 ans. Tu vas prendre la persévérance. Merci, Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, plus grand est le combat, plus grande sera la victoire, comme disait un ancien. Hein ? C'est vrai ? Voilà. Allez, je termine avec ce verset. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, fixes tes regards sur Jésus. Si tu fixes tes regards sur un homme, tu as de fortes chances d'être déçu. Ne fixe pas les regards sur ton frère, ta sœur. Ne fixe pas les regards sur pasteur un tel. Fixe tes regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand tu es dans le découragement, quand ton âme elle est fatiguée, elle est lassée parce que c'est dur le combat, c'est intense. Regarde à Jésus, rappelle-toi de ce qu'il a accompli à la croix. Regarde ce qu'il a fait à la croix. Quand tu regardes la croix, eh bien ça te donne la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Et de remporter la victoire. Et la victoire finale, pourquoi ? Parce que lui, il l'a gagnée pour toi déjà. Frère et sœur, applique ces principes dans ta vie. Et la bénédiction est à la clé parce que c'est dans la Bible, c'est tout. Ce n'est pas des recettes magiques. C'est juste la parole de Dieu. Et puis mon ami, il a été dit dans un don spirituel ce matin qu'il faut se rendre à l'évidence. Et un jour, on va devoir comparaître devant le trône de Dieu ou le tribunal de Christ. Ça dépend dans quelle catégorie on se trouvera. Mais en tout cas, il va falloir comparaître devant le jugement. La Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Nous serons jugés par nos actes. Ce que nous avons fait sur terre. Sauf que le problème, c'est que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ne peuvent pas se racheter par leurs œuvres. Le seul moyen de salut, c'est d'offrir son cœur, c'est de se repentir, c'est de croire dans la personne de Jésus, de croire dans l'œuvre de Jésus, se repentir de ses péchés et dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, je suis perdu, je suis misérable. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, pardonne-moi. Celui qui le fait sincèrement, le Seigneur le fait. Il se révèle à lui. Eh oui, il se révèle à lui. Jésus-Christ est le seul qui pourra te donner la victoire sur la mort et qui pourra te faire tenir debout au jugement dernier. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi qui devra être vaincu, c'est la mort. La mort, c'est un ennemi. Voilà. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il veut te donner la victoire aussi. C'est pour cela qu'il est venu. Si le Seigneur avait dû venir que pour toi, pour une personne, il serait venu. La Bible nous dit, Jean 3,16, vous connaissez ce passage par cœur, les chrétiens. Peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce passage, tu peux y mettre ton prénom. Car Dieu t'a tant aimé, à toi, personnellement, qu'il a donné son Fils pour toi. Alors vous savez, face à la prédication de la croix, la parole de Dieu, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui reçoivent, qui ouvrent leur cœur. Il y a ceux qui se moquent. Il y a ceux qui disent « on verra, on n'a pas besoin, on verra une autre fois ». Chacun est libre devant Dieu et chacun est responsable. Parce que ce n'est pas ton père ou ta mère qui va te sauver. Ta femme ou ton mari, ton fils ou ta fille. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère, la sœur qui te sauvera. C'est que Jésus. Et c'est toi et lui. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse bien marcher de victoire en victoire. Les baptisés, les futurs baptisés dans quelques instants, qui vous donnent de persévérer jusqu'au bout, mais ces conseils que nous vous donnons, on se les applique à nous-mêmes. Voilà. En tout cas, moi, je me les applique. Je me dis, Seigneur, je veux rester humble devant toi, je veux rester petit, et je veux les considérer, ces choses. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, ta parole, eh bien, encore, parle à nos cœurs. Et ce que tu nous demandes, c'est d'avoir des cœurs humbles, des cœurs ouverts. Seigneur, que cette semence puisse produire du fruit. Merci, Seigneur, encore pour les âmes qui s'engagent avec toi, devant toi et devant les hommes. Seigneur, merci pour ces âmes que tu as rachetées. Merci pour ces âmes que tu as transformées. Seigneur, bénis-les, encourage-les, fortifie-les. Cette prière, Seigneur, eh bien, je la fais pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, pour l'Église, pour l'Assemblée de Arles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais en toute chose, tu nous demandes aussi d'être participants. C'est une grâce que tu nous fais, de nous mettre en œuvre, de nous mettre en action. Seigneur, d'appliquer les principes de ta parole. Seigneur, comme disait le prophète, j'ai dévoré ta parole. et nous y trouvons des trésors et des bénédictions pour notre âme. Merci parce que tu donnes toutes choses tout au long de la marche. Aide-nous, Seigneur, à demeurer ferme, inébranlable en toi, jusqu'au bout. Seigneur, notre désir, c'est d'entendre de ta part, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton Maître. Que ton nom soit glorifié. Amen.